Et nouvelle semaine de destination en balade au cœur du Limousin et toute dernière semaine d'ailleurs pour cette saison et que nous allons passer à la fraîche puisque nous sommes quasiment les pieds dans l'eau et pas n'importe quelle eau puisque nous sommes en bord de Vienne. Pour passer cette semaine, nous allons justement évoquer ces bords de Vienne, ces ponts et une grande part encore une fois de l'histoire du Limousin et de Limoges. Et c'est avec Éric Bouteau que nous allons partager cette semaine, guide conférencier à l'office de tourisme de Limoges. Éric, je l'ai dit, on va commencer on ne peut plus près du sujet puisque voilà, 50 cm plus bas et on avait les pieds dans l'eau pour faire le reportage.
C'est vrai, là on est très très bien installé, on profite de la fraîcheur sous la pile du pont, lequel le pont Saint-Étienne, celui qui marque l'entrée de la ville historique, de cette rivière qui a été véritablement fondamentale pour l'installation des hommes en ce site. Je parle de la Vienne. Ouais. Je parle de la Vienne, mais je pourrais parler de la Vignane. La Vignane, c'est la Vienne, c'est la rivière au reflet d'argent. C'est cette belle rivière qui puise finalement l'eau dans le vieux socle hercynien du massif central, donc sur le plateau de Millevaches, précisément d'ailleurs commune de Millevaches, des mille sources. Et il en faut que trois, finalement, à peu près trois, hein, pour que finalement, elles finissent par se joindre et donner un embryon de petits ruisseaux qui se dénomme la Vienne.
Alors, on parle du pont Saint-Étienne où nous nous trouvons et on évoquera les ponts parce qu'ils sont au nombre de 7 et on aura l'occasion de les évoquer demain et on parlera de chacun de ces ponts au fil de l'histoire. Mais d'abord, cette Vienne, en quelques chiffres, parce qu'elle nous est tellement familière et finalement peut-être très méconnue.
Oui, alors la Vienne, elle prend sa source, donc, comme je le disais, à Millevaches. Très vite, profite de toutes les eaux qui sont nombreuses, des tourbières, des jaillissements, des rajades, tout ce qui jaillit là-haut, sur le haut plateau. Et puis, elle fait son chemin et elle est alimentée très vite par de nombreux ruisseaux et des rivières importantes aussi. Alors, elle traverse des villages importants, des bourgs, comme on dit ici, comme Aymoutier ou le quartier des Pelots, avec les nombreux moulins et puis l'activité autour des tanneries, des pots, qui étaient liés aussi à l'eau qui pouvait cela. Puis plus loin, on peut parler de Saint-Léonard-de-Noblat et puis la cité des Mioletou, où là, quand on entre encore aujourd'hui, on aperçoit des infrastructures nombreuses. On actionnait les moulins pour là aussi travailler les kaolins, les pots, le papier, comme le moulin d'Hugo, que vous devez connaître, même si c'est sur un ruisseau adjacent. On est quand même non loin du bassin de la Vienne. Et le Torion, à Saint-Priest-Torion, vient rejoindre notre Vienne qui est prête pour entrer dans Limoges. Alors pour ça, elle va encore passer au palais sur Vienne. Et là, vous pouvez aller vous baigner à la Sablière, à la petite plage, donc en amont de Limoges. Et elle se décide enfin, finalement, à faire une entrée assez majestueuse. Elle est large, mais elle n'est jamais vraiment très profonde. Je peux vous le dire, car je suis tombé de mon bateau et j'ai toujours touché le fond, quasiment. Bon, à ne pas faire malgré tout. On ne sait jamais ce qui se cache dans le fond. Mais arrivée à Limoges, donc, elle est relativement calme. Hein. Il y a un barrage un peu plus haut en amont. Et donc, il y a de nombreuses digues, écluses, ouvrages d'art qui viennent la maîtriser en quelque sorte pour ensuite servir aux différentes activités. Autrefois, il fallait que l'eau soit relativement tenue pour pouvoir alimenter les biefs, les canaux d'amenée pour les différentes activités.
Si elle est calme, c'est parce que on l'a un petit peu domptée, on peut dire ça comme ça.
Oui, ici, il y a environ en moyenne 53 mètres cubes d'eau par seconde. Bon, ça dépend vraiment des saisons. Maintenant, avec les barrages, on ne se rend plus forcément compte. Mais à l'époque, il y avait des périodes qu'on appelait les étiages, c'est-à-dire quand le cours d'eau est au plus bas. Et à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a plus qu'un mince filet sur certaines photos. On pouvait traverser quasiment la Vienne sous les piles. Les premières piles du pont, c'était à nu en quelque sorte. Inversement, il y avait aussi les crues. Donc on a des échelles qui révélaient des niveaux d'eau qui parfois noyaient les rez-de-chaussée des demeures. Donc elle était souvent indomptable, cette Vienne. Il a fallu la maîtriser. Alors la Vienne, c'est quand même 372 km entre la source et puis son embouchure. Elle rejoint finalement le fleuve Loire, la Loire. Ça se passe du côté, vous allez chercher des caisses de vin dans le pays de Rabelais. C'est à Chinon, près de Chinon, plus précisément à Camp de Saint-Martin. C'est un magnifique village. Et là, vous voyez se terminer notre Vienne qu'on a connue depuis sa source.
Voilà. On met un peu d'eau dans le vin et je ne suis pas sûr que les amateurs apprécient l'idée. 372 km, ça veut dire qu'on peut y faire beaucoup de choses aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler en fin de semaine, de cette Vienne d'aujourd'hui avec de nombreuses activités. Mais c'est vrai qu'à travers le temps, et ça aussi on l'évoquera au fil de la semaine, on l'a exploité sous différentes façons, pour le bois, pour la porcelaine. Elle a vraiment été mise à profit.
Est fondamentale pour l'industrie de tout temps. Et aujourd'hui, je dirais qu'il faut, j'en touchais quelques mots, mais la maîtriser, la contrôler dans une ville moderne. Mais il le faut aussi parce qu'il y a une centrale nucléaire dans la Vienne, vous savez, à Civaux. Donc depuis Vassivière, la Molde qui rejoint la Vienne, ça permet voilà, toujours d'avoir un afflux d'eau en toute période. Il y a une expression d'ailleurs qui dit que pour alimenter Civaux, il faut bien 1000 vaches. Voilà.
Voilà pour la petite référence. Et puis on peut pêcher dans cette Vienne, hein. On en témoigne, on a dit on est les pieds dans l'eau, on voit les poissons de plus ou moins grande taille. Pour certains, il va falloir attendre un petit peu, mais voilà, elle fait aussi le bonheur des pêcheurs.
Oui, il y a des pêcheurs en pleine ville qui relâchent souvent, mais il y a des gardons, des goujons, il y a des brochets, il peut y avoir du cendre, il y a des blancs. Il y a quand même encore pas mal de poissons. En tout cas, la Vienne était réputée comme poissonneuse. Autrefois, il y avait cette volonté à tout prix de pêcher au bout de l'hameçon, donc son repas en quelque sorte. Et quand on n'était pas forcément qu'on ne se contentait pas de ce qu'on avait, eh bien, le soir, on sortait parfois pour jouer aux ravageurs. Les ravageurs qui étaient les braconniers qui lançaient des filets, qui étaient des éperviers pour finalement attraper son repas.
Pour l'instant, nous, on va profiter juste du repos hein, au bord de Vienne parce qu'on peut préciser qu'on n'est pas loin des 35 degrés cet après-midi. Donc, on va rester tranquillement installé à l'ombre et on pêchera ça un autre jour. Pour finir, évidemment, on parle de l'élément naturel qu'est la Vienne, mais il y a ce rapport avec l'homme. Et pour faire la transition sur ce que l'on évoquera demain, c'est-à-dire l'arrivée au fil de l'histoire des différents ponts, on peut dire un mot d'Augustoritum qui est lié à l'histoire de cette Vienne.
Oui, l'image est liée dans sa création, dans son nom, à la rivière. Du temps gaulois, on dira, la capitale connue était Villejoubert, à la confluence de la Molde et de la Vienne d'ailleurs, c'est à Saint-Denis-les-Murs. Avec l'arrivée des Romains, donc il va y avoir l'établissement du Ville-Nouvelle, qui prendra le nom sur la rive droite, sur une pente relativement bien exposée au sud-est, d'Augustoritum. Et Augustoritum, Augustoritum, ça signifie ritum, le guet. La partie guéable, la partie qu'on traverse allègrement. Et Auguste, référence à l'empereur qui régnait en ce temps-là, c'est-à-dire que notre ville a été créée autour de moins 15, moins 10 avant Jésus-Christ. Donc notre nom de ville antique, il est lié à la rivière.
Voilà, et pour passer d'une rive à l'autre, il faut des ponts évidemment, et on n'en manque pas à Limoges, c'est ce que l'on aura l'occasion d'évoquer ensemble demain. Et c'est notre deuxième rendez-vous de cette semaine passée en pleine nature, dans Destination, pour évoquer les bords de Vienne, où nous nous trouvons avec notre guide, Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de Tourisme de Limoges, et que vous pourrez retrouver au détour des balades que vous propose l'Office de Tourisme très régulièrement. On parle de ces bords de Vienne, on a parlé de la Vienne d'ailleurs à proprement parler hier, pour parler du gué, du passage effectivement de la rivière, parce que qui dit rivière dit traverser, et pour ça, il y a la nage, soit, mais on préférera quand même les ponts, oui. Même si aujourd'hui il fait très chaud et qu'on aurait bien aimé se baigner. Oui. Et les ponts, c'est ce sont des monuments de Limoges parce qu'on en dénombre 7 qui sont historiques puisqu'ils vont nous permettre de remonter le fil finalement de notre histoire.
7 ponts, il est vrai aujourd'hui. Alors le gué, certes, le gué est mal situé d'ailleurs. Il y a plusieurs hypothèses de gué. En tout cas, près du viaduc ferroviaire, quand on connaît Limoges, il y a une rue qui s'appelle la Roche au Gau. Et le Gau, comme le moulin du Gau, côté de Saint-Léo, le Gau c'est le gué. Donc, il y avait des situations de gué, mais les Romains, eux, voulaient quelque chose de moderne, à l'image de ce qu'ils savaient faire en termes d'infrastructure, d'urbanisme. Donc, au 1er siècle de notre ère, on va lancer un pont au-dessus de la Vienne qui sera à l'emplacement de celui qu'on connaît sous le nom de pont Saint-Martial. Encore aujourd'hui, vous pouvez voir au niveau des piles des éléments de pierre avec des agrafes métalliques qui sont caractéristiques de cette façon de faire construire des gallo-romains. Alors, voici le doyen des ponts. Donc, c'était l'accès principal de la ville antique, Augustoritum, pendant des siècles. Et au Moyen Âge, la ville est bipolaire. La ville gallo-romaine est relativement abandonnée et la population va se déplacer, non loin d'ailleurs, hein, sur un point qu'on aperçoit de là pour nous, qui est le puits Saint-Étienne, c'est-à-dire l'emplacement de la cathédrale actuelle. La population, qui était dirigée par un évêque sur ce coin-là de la ville, avait la nécessité aussi d'avoir une forme de commerce, donc un accès plus direct. Et il faut attendre quand même le XIIIe siècle, autour de 1200, hein, vraiment tout début XIIIe siècle, pour qu'on ait l'implantation d'un deuxième pont médiéval, qui est le pont Saint-Étienne. Mais c'est vrai que lorsque vous vous promenez, vous pouvez voir que le pont Saint-Martial ressemble beaucoup au pont Saint-Étienne. C'est parce que le pont Saint-Martial, il a subi la destruction dans les années à peu près de la construction du pont Saint-Étienne. Et comme on a reconstruit donc celui de Saint-Martial, eh bien, il est assez évident qu'on ait le même type d'architecture, soit un tablier, des parapets pour éviter de tomber à l'eau, ça c'est pour le haut. Pour le bas, on voit bien les piles, avec en amont des parties en avancée en forme d'amande ou de bec, d'où le terme avant-bec, et en aval, et vous n'avez qu'à l'expérimenter vous-même, s'il y a du monde sur le pont Saint-Étienne, vous pourrez vous garer. Non pas que vous irez en voiture, mais vous garer déjà, vous mettre sur le côté. Il y a des voies de garage. Mais à l'époque, c'était notamment quand il y avait les charrettes. Donc ce pont Saint-Étienne, on sait aussi qu'il avait une porte d'entrée, une porte de sortie. Il avait des murs comme ça, des sortes de tours avec des herses, où on devait, pour pouvoir passer, payer un octroi, un impôt. Donc ces deux ponts aujourd'hui nous sont assez similaires. Et ils sont très intéressants. Il y a peu de villes qui ont des ponts médiévaux en France. Hein. C'est vraiment, pour Limoges, une rareté, un atout même.
Voilà, à découvrir. Et puis on peut parler des voies de garage. Il y a des symboles. Il y a une croix, par exemple, sur celui du pont Saint-Étienne, hein, pour parler de celui-là. En plein milieu du pont, sur ces petites voies de garage, il y a une croix. Donc ça aussi, il y a beaucoup de symboliques, évidemment, qui ont été laissées.
Il y a une croix, effectivement, le rappel à la religion. Et puis aussi, ce pont Saint-Étienne, c'est l'accès aujourd'hui d'entrée pour les pèlerins, notamment de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont nombreux. Et imaginez, venant de Vézelay, ayant marché pendant des semaines et des semaines, l'arrivée à Limoges se faisait par l'est, et c'était une entrée assez magistrale que de traverser le pont et de voir la cathédrale sur son rocher.
Donc les marcheurs de Saint-Jacques sur le pont, et sous le pont viennent de voir passer les pratiquants d'aviron.
Oui, là, des fois, je les manque un peu, mais...
Oui, ils vont vite. Hein.
Ils vont vite. Et on n'est pas très loin de la base nautique, dont on parlera un peu plus tard, qui est un peu en amont. Voilà, et ce pont aussi, il était une porte à cadenasser pour les assaillants. Et notamment, on sait qu'au XIVe siècle, les troupes du fils du roi d'Angleterre, surnommé le Prince Noir, avait débarqué, c'était en 1370, au pied de la ville de l'évêque et ordonné l'ouverture qui n'a pas été faite. Donc il y a eu un travail de siège, on a abattu les murs et les troupes sont entrées dans Limoges. Et ça a été terrible finalement, ça a été ce qu'on a nommé dans l'histoire par Froissart le saccage de la cité. Donc les attaques aussi, dans des temps incertains, troubles se faisait par le bas de la ville, généralement.
Bon, alors, pour l'instant, on peut y passer librement. Les accès vous sont ouverts, n'hésitez pas. Là, on a cité deux ponts, mais on a dit il y en a sept, donc l'histoire a continué de les voir pousser.
Oui, alors, chronologiquement, pont neuf, 1830, pont moderne, bien que, vous savez, l'expression pont neuf comme à Paris, pont neuf à Paris, c'est un des plus anciens. Donc, on l'a appelé le pont Louis-Philippe à l'origine, et le régime étant passé de Louis-Philippe au 19e siècle, on a voulu le neutraliser en quelque sorte. Donc on est revenu sous une appellation légère ou plus neutre, pont neuf. C'était le pont un peu de l'industrialisation, du développement de la ville. Un pont qui est plus haut d'ailleurs, hein, par rapport au niveau de la Vienne. Donc à l'époque, on a fait des remblais pour pouvoir justement éviter de descendre trop bas dans la ville. et puis être victime de l'eau ou des faubourgs en quelque sorte. Donc c'était un pont assez moderne. Puis il y a eu le pont de la Révolution, un peu plus loin. C'est dans les années 1885. 89, on l'appelle Révolution parce qu'on fêtait le centenaire de la Révolution française, 1789. Après, vous avez le viaduc ferroviaire, qui est le plus long ouvrage de ce qu'on peut voir à Limoges. Plus d'une vingtaine d'arches, plus de 400 mètres de long. La Révolution ferroviaire du train, 1880, dans les années 1890. Et puis le pont de l'autoroute, plus moderne. Avant, le dernier pont, qui a été inauguré il y a une dizaine d'années environ, c'est le pont qui n'avait pas de nom.
Qu'on appelait tous le nouveau pont, jusqu'à ce qu'il ait un nom officiel.
Voilà, c'était le nouveau pont. Et bien maintenant, il faut le nommer comme il est. C'est le pont Georges Guingois, cette grande figure de la Résistance, qui a été maire de Limoges aussi.
Donc, dernier pont en date, on se dit qu'on va arrêter la série parce que Limoges a l'air d'être amoureuse des ponts.
Et oui, et là on n'est que sur la Vienne, parce qu'il y a des ponts sur l'Orance, il y a d'autres ruisseaux qui coulent à Limoges.
Donc il y a d'autres choses à découvrir, et puis on en avait parlé quand on avait parcouru ensemble le quartier de la Boucherie, où on avait ce mélange entre un quartier très historique et puis la modernité des bâtiments. Là c'est un petit peu pareil, hein, autour de ces ponts et dans ce quartier des ponts, évidemment, l'architecture moderne a fleuri.
Oui, c'est aussi l'avantage pour nous aujourd'hui, c'est quand on passe là, on dirait que ça a presque toujours été comme ça. Hein, c'est bloqué. On croit un bout de nature. Mais ce qui était bout de nature était surtout bout de sueur, bout de vie. C'était particulièrement peuplé et vivant. Alors, je vais faire vivre cela demain, après-demain et puis vendredi.
Ouais, parce que quand on parle des ponts, on parlera forcément des ponticots. Et pour revenir sur leur vie, avec accent, on va s'en occuper. Ce sera demain et effectivement jeudi pour nos prochains rendez-vous. Et puis on finira la semaine avec l'aspect très moderne et notre Vienne aujourd'hui en 2017. Restez avec nous, on se retrouve demain même endroit, même heure. Et notre troisième rendez-vous de cette semaine passée sur les bords de Vienne. Nous sommes en plein cœur de la nature, à l'ombre, sous une pile de ponts. Nous avons décidé de chercher la fraîcheur à quelques centimètres de cette Vienne qui est ô combien emblématique ici à Limoges et qui fait ô combien partie de notre histoire. On le découvre tout au long de cette semaine avec Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges. On a parlé de la Vienne, on a parlé des ponts. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'homme, aux hommes, les ponticots qui sont très attachés évidemment à l'histoire de ce quartier. On va les évoquer d'ailleurs en deux temps, aujourd'hui et demain. Peut-être pour commencer, ces métiers emblématiques qui ont fait vivre ce quartier, notamment au travers des moulins.
Vous connaissez la chanson « Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite ».
On s'inscrit à The Voice très bientôt.
Ou pas. Mais effectivement, le Moyen-Âge a beaucoup développé les moulins en utilisant la force hydraulique. Il y a les moulins à vent, il y a les moulins à eau, donc le moulin à eau pour notre région. Donc au XIIIe siècle au moins, se développe sur la Vienne, près du pont Saint-Étienne. Pour vous en citer quelques-uns d'historiques, puisqu'il y en avait à Limoges, mais le moulin du Poudrier, alors qui est avéré un petit peu plus tardivement, au moins au XVIe siècle. Et puis en face, il y avait le moulin aussi du côté de Panazol, qui était un peu plus ancien, 15e siècle. Bon, ce sont des moulins qui étaient des moulins à farine, notamment on appelait les farinariums, les ventres de Limoges. C'est-à-dire qu'on amenait sa récolte, son blé, à Meunier, qui ensuite le faisait passer dans les trémies, sous les roues, sous la dormante, et puis sous celle qui tourne. Tout ça grâce à la force de l'eau.
Et donc, pour en faire de la poudre, d'où le nom du moulin.
J'en étais à la farine, pour faire de la farine déjà.
Ouais.
Alors
c'est
oui,
une poudre.
Bon, qui est une poudre blanche. Et la poudre noire, par contre, c'était la poudre à canon. Donc le poudrier, oui, ça envoie ça.
Donc, c'est moins poétique d'un coup.
Eh oui, mais le roi de France avait besoin de fournir ses arsenaux et ses magasins de poudre. C'était quand même un apanage du roi. C'était régalien tout ça. Celui qui était pris en train de faire de la poudre pouvait connaître la peine suprême. Donc la poudre noire, c'était du salpêtre notamment, du soufre et du charbon qui devait être broyé sous l'action des moulins. Et puis les moulins pour le textile, toutes les machines qui étaient actionnées grâce à l'eau, les moulins à tannerie, vous savez le temps, c'est de l'écorce de chêne, hein. tous les traitements nécessaires sur les peaux, hein, qu'il fallait frapper, qu'il fallait attendrir en quelque sorte. Et puis le moulin à porcelaine, les moulins les plus emblématiques, le moulin de la Garde notamment en aval de Limoges. Il y avait le moulin à Dallon, là où se trouve l'île aux oiseaux actuellement, où on broyait là des terres à gazette mais qui étaient liées à la porcelaine. Donc effectivement, les moulins, force hydraulique, force gratuite. Et même, je dirais plus récemment, les turbines qui étaient actionnées grâce à ça. Donc, production d'électricité sur la Vienne. Alors, au 19e siècle, il va y avoir, et ça on le sait parce que l'arrivée du bois, l'arrivage se fait depuis très très longtemps, ce bois qui venait sur la Vienne servait à la construction, au bois de chauffe, et puis on va s'en servir comme un combustible. Donc, le bois était coupé dans le haut pays par les bûcherons. Il était posé sur la Vienne, alors soit en radeau, soit à bûche perdue. Et puis, arrivé à Limoges, il était bloqué par des grands ouvrages qu'on appelle des ramiers, sorte de barrage éphémère, qu'on reconstruisait quasiment tous les ans. Et les messieurs, sur leur embarcation à fond plat, qui s'appelaient des naos, c'était des navetaux, des hommes de l'eau, eh bien, allaient récupérer munis d'un lanci, c'est-à-dire au bout d'une gaffe, d'une perche, un crochet, le bois avant qu'il ne coule. Et on l'amassait sur le port de Limoges, un port de marins d'eau douce.
Quand on parle du port, on va se souvenir du port du navet et on pouvait se demander d'où sortait cette notion portuaire.
Tout à fait, et navet. Navex, navet, navigum, nao, c'est la même racine pour désigner la navigation en quelque sorte, le fait de s'emparer de l'eau. Donc notre port voyait des on parlait d'abales, c'était la mesure des stères et des stères de bois. Vous imaginez que quand Limoges est devenue ville industrielle, ville rougeoyante avec des fours de 80 mètres, 50 mètres cubes, voilà, par dizaines et dizaines, et ben, il a fallu énormément fournir en bois jusqu'à ce que le chemin de fer ne prenne le relais, puisque au 19e siècle, dans la deuxième partie, ce sera le charbon pour alimenter les usines, les fours, qui lui venaient souvent par chemin de fer. Donc ça va marquer quand même un affaiblissement du rôle de la rivière en tant que rivière flottable. C'est une rivière flottable, mais pas navigable, n'est-ce pas? On a vu un aviron tout à l'heure, mais on n'a pas encore vu une grosse péniche. Ou alors à moins d'avoir un fond très très plat. Voilà comment on navigue sur la Vienne.
Voilà, elle est devenue beaucoup plus calme, effectivement, depuis le développement du chemin de fer. Après, avec beaucoup d'entreprises de renom qui ont marqué aussi l'histoire, qui ont profité de la présence de la Vienne pour se développer.
Oui, une des plus emblématiques, puisque vous pouvez visiter, c'est les Cassaux. Les Cassaux, c'est 1816, l'implantation. Donc 200 ans d'installation ici à Limoges, sur les bords de Vienne. Première grande usine moderne de porcelaine. Donc, qui était tenu par, à l'époque, un certain François Alluot, qui était maire de Limoges, hein, qui a été un des instigateurs du pont, la construction du pont neuf. Donc, lui avait compris le rôle de la rivière. Il y a eu aussi Gibus Redon, avec Alpinia Margaine pour la porcelaine, qui n'existe plus, hein, mais je vous cite des noms. Il y a eu Chastanier, la porcelaine limousine. Il y a eu Leclerc, on voit toujours l'enseigne, quand on est au niveau du pont de la Révolution. Pour parler d'une manufacture, un atelier plutôt qui existant, une entreprise, vous avez par exemple chez Arquier, porcelainier, qui est situé à la Fompineau. Donc, grandes entreprises, certaines restent, mais elles ne donnent pas, si vous voulez, le reflet de l'ampleur de ce qu'a pu être Limoges industrielle.
Et puis, des petits métiers qui aujourd'hui peuvent prêter à sourire, mais qui étaient ô combien importants et implantés à cette époque-là. Alors, je les aurais appelés les arracheurs de sable. On va les appeler les dragueurs, officiellement.
Les dragueurs, oui, sans connotation, c'est vraiment draguer le fond. Parce que le fond, c'est du sable, et le sable, c'est bon pour la construction. Il y a un quartier de Limoges qui s'appelle le Sablard, d'ailleurs. Peut-être lié à ça, probablement. Ça faisait partie des activités. Après, parmi les activités, il y a les dames qu'on entendait le loin, les laveuses.
La mère Denis.
Ouais, c'est ça. Par dizaines et dizaines, on dit qu'elles avaient toujours les mains bien occupées et la langue bien pendue. Se racontaient les histoires. Ce qui faisait office de lavoir, c'était la rivière. Donc, alignées à genoux, sur leurs pierres plates, les genoux dans le bachou. Le bachou, c'est des caisses en bois qui sont remplies, garnies de paille, vous voyez, pour pas se faire mal, quoi. Parce que la position, la posture est quand même difficile. Mais on plonge ses mains dans l'eau, avec le linge, on frotte, on le tape le linge avec des péteux, qui sont des battoirs, des outils pour détacher. Donc c'était comme ça, c'était le paysage que de voir des laveuses qui étaient des professionnels, qui n'avaient pas que le bourrasou, que les couches des enfants. C'était voilà, des professionnels. Donc elles montaient avec leurs gros ballots, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 kilos peut-être parfois, jusqu'à la ville haute, chez les villots. Donc elles peinaient. Et elles aimaient trouver un peu d'eau chaude près de l'usine électrique. L'usine électrique qui existait en amont du pont Saint-Étienne. Si vous voulez, là où se trouve quasiment le port du Navet. On avait une immense cheminée qui mesurait pas loin de 60 mètres d'eau. C'était immense. Et qui a été tombée il y a quelques décennies maintenant. Donc qui produisait l'électricité de Limoges.
Alors on a beaucoup parlé du travail, mais il y avait aussi des loisirs, il y avait aussi une personnalité de la part de ces fameux ponticots, et on aura l'occasion de détailler ensemble tout ça demain dans notre avant-dernier rendez-vous de cette semaine. Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine passée en bord de Vienne, puisque ce sont ces bords de Vienne, ces ponts, son architecture, cette Vienne et ses habitants emblématiques, les ponticots, que nous découvrons avec Eric Bouteau, le guide conférencier à l'Office de Tourisme, tout au long de cette semaine avec nous. On a parlé un petit peu des ponticots hier avec, au travers de ces métiers emblématiques, hein, on a parlé des laveuses, on a parlé de tout ce qui a pu être fait grâce notamment à la Vienne de façon naturelle. On va peut-être maintenant s'intéresser aux ponticots en eux-mêmes, parce que c'était une vraie vie de quartier jusqu'on va dire dans les années 60, avant le démantèlement de ce quartier des ponts, comme on l'appelait. Peut-être d'abord définir qu'est-ce qu'on appelait un ponticot à l'époque.
Ouais, attention, là on part dans quelque chose qui peut faire jaser. Le ponticot, on va dire, c'est celui qui a la tête tournée vers le pont. Ouais, celui qui est attiré vers l'eau, qui habite pas loin de l'eau. Parce que il y avait les rives gauches, il y avait les rives droites, il y avait ceux du pont Neuf, ceux du pont Saint-Étienne, ceux de la Grande Île. Donc les ponticots sont ceux qui vivent non loin de la rivière. Alors, c'est vrai que c'est surtout dans le temps qu'on entendait résonner les accents, les expressions. Aujourd'hui, c'est là aussi plus aseptisé, il faut bien le dire. Bon, parler des destructions où il y a des quartiers comme le Magoulé, là où se trouve la patinoire, le quartier où il y a le rond-point des Cassots, voilà, donc, qui ont été ébouillés, qui ont été renversés. Mais bon, le ponticot, donc, c'était quelqu'un qui savait faire bon usage de la rivière, puisqu'il vivait de ça, il vivait à côté de ça. Donc les ponticots vivaient le long dans des maisons à pans de bois, souvent un peu élevées, pour que quand l'eau monte, on soit un peu à l'abri, dans deux pièces. La pièce à vivre, et puis on dormait dans l'autre pièce. C'est rare d'avoir plusieurs chambres. Vivaient comme ça, et les ponticots étaient souvent les gens qui étaient primo arrivants. Il y a quelques-uns qui étaient vraiment du quartier, mais il a fallu du temps. Au départ, c'était des sortes de faubourgs, les banlieues actuelles, c'est-à-dire les gens de la campagne qui venaient, tant qu'on entendait plusieurs limousins, et ils vivaient assez dans des quartiers assez, c'est une vie assez populaire, puisque c'était quand même des besogneux, ces gens qui travaillaient de leurs mains.
C'était pas le quartier huppé, quoi.
C'était pas le quartier, on va dire, bourgeois. Il y avait bien quelques maisons bourgeoises, mais si vous voyez, on était fascinés par ça. Et c'était un quartier où on va développer très vite une forme de conscience. Une conscience, voilà, de quartier et presque de classe. Donc ça a été très, très affilié au monde politique quand même, hein, au monde, on va dire, des émancipateurs. Alors, je le mets au sens large, mais il y a eu le socialisme, on criait « Vive la sociable !» Et il y a eu des expériences, voilà, manifestes. Hein. En 1848, on sait que les ponticots, n'étant pas contents de l'évolution politique et des suffrages, sont montés munis de leurs lancis, menacer les autorités pour voilà, revoir un petit peu le vote.
On dit qu'il y avait un vrai caractère ici, on était un peu, c'était les gardiens du temple, hein, ici, on ne rentrait pas qui voulait d'ailleurs, selon une expression.
Expression, oui, c'était, je vois un ragondin en face de nous là qui fait des tours, juste là.
J'avais pas vu.
Il a fait un petit looping dans l'eau là. Oui, et bien lui il avait peut-être peur de l'expression.
C'est ça.
Qui dit, si tu es des spons, si tu es du pont, passo, mais si tu es de l'ovillo, si tu es de la ville en haut, bourgeois, ou je ne sais quoi que tu es, Eh bien, pas din laigo, ça veut dire va à l'eau. Donc, en gros, c'était de dire si tu es des miens, quoi, tu es chez toi, mais si tu es pas là, ben, méfie-toi, parce que ici, c'est nos règles un petit peu qui comptent. Et nous, la police, elle nous fait pas vraiment peur. On se raconte, hein.
On raconte même, il y avait une espèce de, une idée que c'était un peu mal famé, hein, qu'on venait pas trop se balader. On parlait du quartier du Bagoulé, notamment. On valait mieux éviter de venir s'y promener de nuit. Ça faisait partie de la légende, on va dire, mais ça les arrangeait bien, finalement. Oui, on les laissait tranquilles.
Oui, oui, il y avait réputation d'être un peu bagarreur, comme on dirait. Mais, qui a jamais eu vraiment, si vous voulez, grandes émeutes, de grands mouvements ici, hormis des mouvements qui ont touché aussi une partie de la ville. Alors les Ponticos, ils se restauraient dans leur quartier. Il y avait de nombreuses des cabarets, des guinguettes. Il y en avait par dizaines. On allait danser, la tra-tra, on allait chanter. Il y avait de nombreux chants, que ce soit dans les associations du Marin du Clos ou des Enfants de la Vienne. Les jeunesses coopératives. Parmi les bistrots du coin, le poisson soleil. On mangeait des tafouès, qui étaient des omelettes avec de la friture. Donc vous pouvez encore voir l'enseigne en allant vers Panazol, en remontant la rive gauche. De l'autre côté, au port du navet, on avait un établissement qui s'appelait la Crotte de Poule. Donc la Crotte de Poule, là aussi, on allait passer du bon temps, quand il y avait le lundi saint. Le lundi chômé. Et on dit que la Crotte de Poule parce que il y aurait eu des poules, des poulaillers, des poules qui déféquaient ou qui étaient là parmi les clients. Mais pas trop loin.
On a parlé du café du Raja également, dans la rue du Raja.
Il y avait café, oui, Raja, une rue que vous pouvez voir toujours, ça signifie jaillir. Il y a une source, la fontaine du Perpeigne, dans ce quartier. Dans ce quartier du Raja, ce qui est intéressant de voir, c'est notamment la statue qui est une vierge avec tout autour des battoirs et qu'on appelle Notre-Dame du Péteux. Vous rappelez, j'en ai parlé de la vase. Donc là-bas, il y a une forme de vénération, ou du moins il y avait une sorte de demande de protection, caractère pieux, bien qu'un peu rouge, d'avoir du bon linge. Et il y avait aussi dans le quartier, côté rive gauche, une université populaire du Pont Saint-Étienne. Alors l'université populaire, c'était une association laïque de type loi 1901. Et elle a été fondée en 1901. Ce qui prouve quand même le caractère précoce, l'accroche de cette population aux nouvelles lois. C'était à l'époque la référence quand même affirmée à la République, à la laïcité, à l'absence de dogme, à la discussion, libre discussion, d'où l'on devra faire émerger la vérité. Le progrès par l'instruction, l'enseignement mutuel. Et il y avait là-haut une bibliothèque où on pouvait se servir. Il y avait des médecins qui venaient pour vous prévenir des risques, des silicoses, etc., des maladies aujourd'hui qu'on appellerait des maladies professionnelles. Et dans cet établissement, qui est aujourd'hui une association, il y a des pétanquistes, eh bien on pouvait aussi voir la figure de Monsieur Louis Gougeot. Louis Gougeot qu'on appelait l'ami du peuple ou l'amiral. Qui a été un des instigateurs de la fête des ponts, des grands carnavals ici, et du socialisme à Limoges. Alors aujourd'hui, vous l'avez quand même dit en filigrane, c'est que les choix qui ont été faits d'urbanisme ont fait que rive droite, aujourd'hui quand même, c'est très grandement reconstruit, et qu'il n'y a plus beaucoup de passages ou résidentiels. Alors un petit peu dans la Bessaye, ce qu'on appelle la Bessaye, vous savez, c'est le quartier rue du Pont Saint-Étienne, tout ce qui est derrière la cathédrale. Et tout le quartier à droite de ça, bon, il était quand même renversé. Donc la population, elle a été relogée un peu plus loin. Donc après, de notre côté, on était du côté du Clos Sainte-Marie. Ici, on a quand même préservé un peu plus les habitats. La ville s'est ouverte, la nécessité aussi de se déplacer parce que les métiers qui étaient inhérents à la rivière... Eh ben, ont disparu. Donc, ces populations et ces accents se sont un peu étiolés avec le temps. On entend toujours sonner quelques accents ponticaux, mais voilà, il y a une mutation quand même de ce quartier qui s'opère toujours aujourd'hui.
Et justement, eh bien, pour notre tout dernier rendez-vous de demain, on va s'intéresser à ce qu'est ce quartier aujourd'hui et notamment la Vienne d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était à ses origines et les nombreuses utilités hein, qu'on a pu lui donner. Ce sera dans le dernier rendez-vous et ce sera évidemment demain, au même endroit, même heure. Et nous voilà déjà arrivés au terme d'une belle semaine de découverte de cette histoire de Limoges et plus précisément des bords de Vienne, ce site sur lequel nous sommes installés. Nous avons parcouru hein, depuis lundi l'histoire de cette Vienne, l'élément naturel qui est la rivière la Vienne, mais aussi les ponts et leur histoire, leur ancrage dans l'histoire. On a parlé des ponticots hein, tout au long des deux précédents rendez-vous, ces habitants qui ont fait l'histoire ici dans ce quartier des bords de Vienne. On va terminer avec Éric Bouteau qui nous accompagne depuis lundi, guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges, avec l'actualité d'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui. On l'a dit, il a beaucoup changé, évidemment. Il a suivi l'évolution. Cette Vienne, ces bords de Vienne sont encore très exploités.
Oui, il faut venir le dimanche. On verra du monde à plusieurs endroits de ces bords de Vienne. Alors les bords de Vienne, c'est pour les gens ici des sentiers, des rives, des berges, donc qui peuvent se pratiquer très facilement à pied. Il y a des boucles. Donc une des balades favorites des Limougeaux, c'est d'aller du pont Saint-Étienne au pont Saint-Martial. On peut aller bien plus loin parce qu'en remontant en amont rive gauche. On peut arriver du côté du palais sur Vienne, donc on peut rentrer, on peut sortir de la ville, on peut remonter la vallée d'Ozette aussi, le parc d'Ozette qui est un parc fabuleux, une trame verte où on suit un ruisseau à travers le jardin d'Ozette, le Marom, le Bas Farjat. Il y a le port du Navet qui aujourd'hui accueille les boulistes, il y a de nombreux amateurs mais aussi aujourd'hui les molkis. Un peu plus loin, il y a la base nautique avec la SPTT, le club qui permet de s'initier, faire partie d'un club, d'aviron, de canoë. D'ailleurs, on propose des balades en canoë, nous, tout l'été avec l'Office de tourisme, à la fraîche. Et puis, il y a des manifestations qui se font aussi régulièrement.
Ouais, l'idée, c'est que le quartier était très vivant, évidemment, à la grande époque des ponticots et de l'industrialisation, on va dire, de ce site. Il a été, au fur et à mesure, un peu abandonné. Les habitants sont partis vers les extérieurs. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une espèce de reconquête, finalement, de ce quartier.
Oui, le constat, c'est quand même que la Vienne se trouve quand même un petit peu à l'écart des centres-villes de Limoges. Et que les voies de descente d'accès vers cette Vienne ne se font pas toujours naturellement. La grande tendance dans les agglomérations, c'est quand même de se tourner vers nos rivières. Les gens sont friands d'eau, sont friands de berges. C'est une bouffée d'oxygène quand même que de pouvoir s'offrir ça. Et à Limoges, on a cette chance que d'avoir un bord de Vienne particulièrement praticable, ouvert, où il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Donc il y a une réflexion qui est menée effectivement par un cabinet qui s'appelle Yocto Studio, voilà, qui a déjà réuni des populations pour voilà réfléchir les concertations et prévoir ensuite des plans autour de ce qui pourrait être un grand parc finalement d'un seul tenant, ce qu'on appelle les parcs des bords de Vienne ou le parc de la Vienne. Donc ça, c'est un enjeu, c'est requalifier ce quartier de Limoges, trouver des nouveaux points d'ancrage pour boire un verre. Bon, il y a des restaurants, il y a des tables qui sont connues quand même. Mais le tout, c'est de créer une cohérence, donc qui sera donnée aussi à travers une empreinte visuelle. Il va y avoir un logo bord de Vienne qui va être créé, donc c'est déjà un jalon vers ce qui va se passer pendant des années sûrement. Mais ça ne se fera pas sans la volonté aussi des habitants, des privés, etc., que de s'emparer de la Vienne. Tout ne peut pas venir d'en haut, probablement.
Tous les chemins mènent à Rome, tous les grands axes de Limoges mènent quasiment à la Vienne, donc c'est l'idée de mettre tout ça en valeur à l'avenir. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites, historiquement, on va parler de la fête des ponts par exemple, il y avait la fête des ponticots, hein. On était déjà très ancré dans la fête, dans les moments de plaisir à l'époque. Aujourd'hui, ça se traduit par cette fête des ponts au mois de juin, et puis là, on est en train cet été de préparer une très belle exposition également qui va inviter à la fois les Limougeaux et puis les touristes à emprunter pour découvrir cette expo l'intégralité finalement de ces bords de Vienne et de cheminer pour découvrir toutes ces facettes.
Alors, la fête des ponts, c'est une fête qui a plus de 100 ans. Si vous voulez, la fête des ponts, c'était à l'image des fêtes de quartier. Il y en avait autrefois un peu partout. Donc quand on parle voilà, de la, cette puissance quand même symbolique, identitaire des ponts, elle se manifeste parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours cette fête. C'est une fête populaire, donc à la fois les fêtes foraines, d'un côté, manège, etc., barbapapa, petits feux d'artifice, course à vélo, bal, guinguette, vide-grenier, course de baignoire, et des choses sur la Vienne. C'est une fête, voilà, très populaire. À l'image des fêtes qui se tenaient là, il y avait notamment des concours de plongeons dans la Vienne. Il y avait aussi un type qui se mettait dans un sac et qui le fermait avec une grosse corde et qu'on balançait à l'eau. Et le but était qu'il s'en sorte le plus rapidement possible. A priori, il s'en est sorti. Hein. Et puis, la deuxième manifestation qui est propre à cette année, c'est la grande exposition annuelle de la direction des espaces verts de Limoges. Et vous avez peut-être déjà pu aiguiser votre curiosité en observant des sièges, des couleurs sur des arbres, des massifs floraux, des drôles d'installation. Effectivement, ça n'est pas le hasard. Le 2 juillet, à partir du 2 juillet, et tout l'été, et même une partie de l'automne, il y aura donc possibilité de découvrir voilà, une mise en valeur originale, artistique, de ce quartier autour des deux vieux ponts, encore une fois, avec les temps forts le 2 juillet pour l'inauguration et le 6 août aussi, plein milieu de l'été, et on vous réserve pas mal de surprises.
Avec des infos auprès de l'office de tourisme, évidemment, 05 55 34 46 87 ou via internet. Pour le guide conférencier que vous êtes, c'est un plaisir de se dire que ce quartier que vous connaissez bien, que vous expliquez, que vous essayez de faire vivre au travers de ces rappels historiques, le voir s'ancrer d'autant plus dans la réalité d'aujourd'hui, d'être reconsidéré, remis en valeur, c'est un petit plus, c'est quelque chose qui fait plaisir.
C'est un quartier qui a un énorme potentiel, qui est plébiscité naturellement par les gens. Et on ose imaginer voilà, ce qu'il pourrait devenir avec un peu d'impulsion originale. Pourquoi pas remettre des bateaux sur la Vienne, animer de fêtes, de pique-niques électroniques, de guinguettes et autres festivités. Voilà, une animation quasiment constante sur les bords de Vienne. Et garder quand même ce qui fait le charme pour des citadins, c'est-à-dire le côté naturel, protégé, observation d'oiseaux aussi. Hein. Il y a des sorties du CEPOL ici, faune, flore, tout ça conjugué. Un quartier écologique, moderne, et c'est ce qu'on peut attendre aujourd'hui, au 21e siècle et plus, voilà, d'une qualité de vie, d'un cadre de vie.
Quartier en devenir et à découvrir, donc.
Quartier qui a été, qui est, qui sera et qui va, voilà, je pense et j'espère, gagner encore plus en entrant.